I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, une FAQ. Cette semaine, après à peu près un quart de la saison, on a décidé de récolter vos questions, elles étaient nombreuses. Donc cet épisode sera en deux parties pour m'accompagner pendant ces deux parties. Alors c'est assez ironique, hein. Les deux supporters de l'OM après le week-end assez agité du côté de la Canebière qui doivent se réunir pour discuter NBA. J'ai donc avec moi Madiane. Comment ça va, Madiane?
Bah ça va, je préfère parler NBA que football actuellement.
On est deux, on est d'accord là-dessus. Donc on va donc discuter cette FAQ. On l'a dit, il y a eu beaucoup de questions. Franchement, ça part vraiment dans tous les sens. On va parler quoi? On va parler du Jazz, des signatures de l'intersaison, de reconstruction, etc. Donc ça, bref, accrochez-vous, hein. Ça va être stimulant. Il y aura beaucoup de sujets à discuter. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur YouTube. À nous suivre de plus en plus sur YouTube, vous retrouvez le podcast en vidéo, vous pouvez voilà commenter, ça nous aide au niveau du référencement, et puis surtout on vous répond sur Twitter bien évidemment, et je remarque aussi que vous avez été nombreux à nous donner des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, donc on vous remercie, et on invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire, objectif 200, ça serait bien d'arriver à 200 d'ici un de ces jours, puis nous, je vais pas faire plus longtemps. On va marquer cette pause et on va démarrer direct avec l'équipe qui a le meilleur bilan NBA à l'heure actuelle, c'est le Jazz d'Utah. Qui l'eût cru, Madiane? J'ai dû regarder les archives d'Unk Hebdo, je crois que c'est honnêtement une des franchises dont on parle le moins, le Jazz d'Utah. Pourtant, ils sont là, ils trônent. En tête de la NBA, on a donc eu deux questions sur le Jazz d'Utah. Le Jazz, c'est du sérieux ou pas? Nous a demandé Dr. Biggie. Et Utah, depuis les re-signatures, c'est du sérieux? Julien Deck. Alors déjà, on voit déjà, c'est assez marrant, deux personnes qui nous... Voilà, l'idée de sérieux. Alors, on va pas faire les universitaires, on va pas se demander c'est quoi être sérieux. Plutôt, t'en penses quoi de cette équipe du Jazz, Madiane, qui est, à l'heure où on enregistre, sur une série de 11 victoires de suite?
Alors, ils sont très intéressants, très très intéressants, et moi c'est une équipe que je regarde à l'occasion, et il y a plusieurs facteurs en fait qui font que déjà, il y a eu des... L'an dernier, ils ont en fait déçu, et j'ai l'impression qu'ils sont au niveau auquel on les attendait en début de saison dernière. La saison dernière, il y a l'arrivée de Mike Conley, il y a Bojan Bogdanovic qui arrive, on se dit « Oh là là, la hype, etc., ça va être incroyable ». Ils arrivent, ils nous déçoivent d'entrée. Mike Conley n'est pas dedans, l'équipe tourne mal, le banc est désastreux. c'est, je pense, le mot qu'on pouvait appliquer pour le banc du Jazz. Et en fait, cette année, ils se sont stabilisés, clairement. Ils sont meilleurs en attaque. Ils sont meilleurs en défense, et du coup, forcément, bah, par rapport à l'an dernier, quand t'es meilleur en attaque, meilleur en défense, forcément, déjà que t'étais une bonne équipe à l'ouest, là, tu deviens une excellente équipe à l'ouest, du moins en saison régulière.
Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a peut-être, je pense, surestimé la capacité d'un Mike Conley à s'adapter à une nouvelle franchise. Enfin, on pensait vraiment que ça allait être le joueur qu'on allait intégré au Jazz d'Utah, tout allait bien se passer. On voit bien qu'une saison après, bah pour eux, ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est beaucoup plus efficace. Puis je trouve que cette équipe, elle est fascinante parce que vu sa construction autour d'un pivot dominant, on la voit souvent cette équipe du Jazz comme une équipe old school, alors qu'en fait c'est l'équipe la plus moderne potentiellement qu'on a en NBA. C'est-à-dire que c'est une équipe qui prend 45% de ses shoots à 3 points. 45%, historiquement c'est du jamais vu, enfin par rapport à ce qui se rapproche le plus, on avait eu les Rockets d'Anthony Harden qui étaient un peu plus haut, mais bref, on est sur des sphères totalement improbables, et je pense qu'en déjà il y a ça, tout le monde shoot à des niveaux pas possibles, que ça soit les Mike Conley, etc., autour, tout le monde met dedans, et puis aussi je pense qu'ils gagnent en stabilité. Quand tu fais une revue d'effectifs à l'ouest, tu mets de côté les Clippers, Lakers, les Nuggets clairement ont du mal à se remettre de la perte de Jeremy Grant et surtout sont pas bons en dehors de Nikola Jokic. Houston a implosé, OKC reconstruit, on a qui d'autre derrière, Portland a perdu McCollum, enfin bref, il y a une instabilité palpable dans toutes les autres équipes et eux sont sur la même dynamique. Donc leur jeu est plus analytique que jamais, transition, 3 points, leur défense est toujours aussi dominante. Donc honnêtement, c'est du sérieux. Après, est-ce qu'on tue leur prête des ambitions nouvelles? C'est peut-être ça la question.
Alors, ambitions nouvelles. En fait, ils ont gommé des défauts, mais des défauts de plancher, j'ai l'impression. Alors, c'est sûr, déjà, Mike Conley, il est passé de 49 à 5%, 56% au tir réel. C'est incroyable. Et c'est le joueur actuellement avec le meilleur box plus minus de l'effectif. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient des gros soucis de profondeur qu'ils ont gommés. Et maintenant, ils ont un banc. Enfin sérieux avec Ingles, Clarkson, Favors, Nyang. Clarkson que j'avais mis en posture principale du sixième homme de l'AD et qui est dans la course clairement. Donc voilà, ils ont gommé en fait des trous d'air, mais pas des trous d'air qui abaissaient leur plafond, mais des trous d'air qui abaissaient leur plancher. C'est-à-dire que quand Donovan Mitchell est en feu, ben c'est le même plafond pour l'équipe. Mais pour aller plus loin, qui est ton meilleur joueur? Ben, finalement, en playoff, tu vas devoir compter de nouveau sur Donovan Mitchell.
Est-ce que je parle à Shaquille O'Neal, là? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais, sincèrement, et c'est excellent en saison régulière, et moi, j'ai pas de soucis, et s'ils sont dans la même lignée, pas de blessure, peu épargné, ils peuvent rester tout en haut très longtemps, mais ils me font pas mal penser à Denver, où, hormis si, Donovan Mitchell nous sort une campagne hallucinante, mais stratosphérique, je vois pas où est leur plafond plus haut que une demi-finale de conférence. Et là, franchement, vu le niveau des Clippers, des Lakers qui ont l'air quand même qui sont bien armés en fait. Hors malentendu, ils passent ni l'un ni l'autre. Donc, hormis trou de souris pour passer au travers des mailles du filet, les finales de conf, pour moi, ça me paraît compliqué.
Mais est-ce que c'est pas selon toi la troisième équipe de l'Ouest? Ce qui, honnêtement, au début de saison, leur était pas promis, hein. D'être troisième équipe de l'Ouest.
Bah, c'est exactement ça. J'ai cité Clippers, Lakers, mais à date, je vois pas d'autres équipes qui arrivent et qui me disent je bats le Jazz facilement en 7 matchs. Parce qu'ils sont solides, que c'est très compliqué de les bouger, qu'ils ont une rotation à 9 qui va tourner et qui, en fait, à tout moment, en plus, n'importe qui, j'ai vu un match où c'est Royce O'Neal qui a mis des points. Royce O'Neal. Donc en fait, le danger peut venir de partout. Ils ont une variabilité dans un Donovan Mitchell qui peut faire très mal en playoff. Ça, en fait, c'est très dur à battre. Et tu sais que quoi qu'il arrive, tu arrives à Utah ou Utah vient chez toi, tu sais que pour gagner, va falloir montrer un minimum pour réussir à gagner qui est un peu élevé, surtout dans un début de saison un peu particulier où beaucoup d'équipes sont encore en rodage.
Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est la troisième équipe. En fait, c'est l'équipe qui me donne le plus de certitude. Alors, il y a toujours des problèmes. J'écoutais un podcast avec de Mike Prada avec Ben Dossett, qui est un peu le spécialiste du jazz aux États-Unis, un des spécialistes du jazz aux États-Unis. Souvent, la faiblesse de cet effectif du jazz, on la met sur son incapacité. En gros, ils n'ont pas d'ailier pour stopper LeBron, Kawhi, Paul George, etc. Et en fait, lui a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que selon lui, ça pouvait être fait par Royce O'Neal, qui est un joueur qui, les Américains disent plays bigger than in size. En gros, il joue pas comme un mec qui fait quoi, 2-3, un truc comme ça. Ouais. Bref, à peine 2 mètres. Et il disait plutôt que selon lui, c'était en fait leur incapacité à défendre sur des arrières type Jamal Murray. Et honnêtement, j'ai essayé d'analyser les matchs du Jazz avec ce prisme-là. Je comprends ce qu'il dit, même si je reste terrifié à l'idée qu'ils jouent les Clippers, parce que pour moi, c'est leur kryptonite totale, les Clippers. Mais à voir. Après, il y a toujours des petits points, cet effectif du Jazz pour espérer plus. C'est la pire équipe de la NBA à l'ISO, et on sait que c'est quelque chose qui est totalement déterminant pour les playoffs. Et enfin, c'est de loin la pire équipe, c'est-à-dire qu'ils sont à 0,58 par possession. Pour les auditeurs, en gros, les meilleurs de la NBA font presque le double. Enfin, ça vous dit vraiment qu'ils ont des grosses, grosses faiblesses à l'ISO. C'est un faible échantillon, mais c'est quelque chose de pas très surprenant. Donc, c'est une équipe solide, troisième à l'Ouest, mais c'est juste que les deux devants sont des ogres à l'heure actuelle, selon moi.
Oui, enfin, les deux devants ont l'air clairement plus forts et je pense que je ne donnerai pas cher de leur peau dans un meilleur des sept matchs. Par contre, il y a un autre facteur que j'aime beaucoup. Bon, déjà, l'arrivée de. En fait, Inglès ne voit plus le starting five et j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé Mike Conley à avoir ses ballons. Et à avoir son jeu. Et ça, c'est un truc où ils avaient du mal à se stabiliser parce qu'en fait, leur banc était trop faible. Donc, ils savaient pas trop comment balancer. Donc, ils essayaient d'un peu mixer leur rotation. Et du coup, Conley se retrouvait tout seul avec le banc. Mais ça correspondait pas à son jeu. Et il y a autre chose. Moi, je trouve que l'arrivée de Derek Favors, c'est une signature qui leur a fait du bien, le retour de Favors. Parce que tu te retrouves, en fait, avec un Rudy Gobert au moins bien. En fait, ils en ont trop besoin parce que dès lors que Rudy Gobert sortait du terrain, il y avait, en fait, il jouait plus pareil en défense. Et c'était plus du tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc, Favors a des désavantages, hein, c'est un moins bon défenseur. Offensivement, ses écrans, c'est pas les mêmes, hein, ceux de Rudy Gobert sont assez incroyables. Mais au moins, ils ont un espèce d'équivalent. Alors que quand tu sortais Gobert, tu faisais rentrer Tony Bradley. Moi, je changeais de match.
Oui,
Franchement, voir ça,
c'était
c'était
compliqué.
affreux. Et franchement, ça aussi, c'est une très bonne chose pour cet effectif.
Donc, pour répondre aux deux questions, oui, le Jazz, c'est du sérieux et c'est vraiment, ils sont troisième, mais pour moi, il n'y a pas de débat à l'heure actuelle. C'est vraiment la troisième équipe à l'Ouest. Parce qu'on va y revenir, on a pas mal de questions sur ça. Il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui déçoivent, où il y a un peu des, il y a un peu des déceptions, où il y a des choses qui ne marchent pas, à voir ce qui peut être mis sur le compte de la saison un peu particulière qu'on vit. Ça aussi, on va en parler. Deuxième question. Une question de KB92300. Je vais dire ça comme un code postal. La plus grosse surprise du début de saison, Cleveland dans le top 8 ou Miami 13e, et Julien Deck qui nous avait posé une question nous demande: Miami, c'est quoi le problème? Donc, première partie de la question, c'est quoi qui te surprend plus, Cleveland top 8 ou Miami 13e?
C'est compliqué, mais en fait, face à ça, disons que si on m'avait aligné, si on m'avait dit que Miami serait à cette position-là, j'aurais eu beaucoup de doutes. D'un autre côté, moi, j'ai re-regardé mes prédictions d'avant-saison. Je les mettais pas avant avec l'avantage du terrain. Donc déjà, j'avais des petits doutes. Et là, leur effectif, c'est. Enfin, Jimmy Butler a joué 7 matchs. Enfin, par exemple, tout va
C'est
bien.
chaud, ouais.
Alors, du coup, j'ai regardé les matchs avec Jimmy Butler. Ils font 4-3, ce qui déjà donne une certaine perspective de ce qu'ils ont fait sans lui. Où c'est une catastrophe. Donc voilà, ils ont des absents. C'est compliqué. Moi, Cleveland est plus surprenant au vu des circonstances. Alors, ils ont des circonstances favorables, mais je les voyais pas quand même gagner certains matchs, notamment celui face aux Nets, où tu te dis, waouh, ils arrivent à gagner ça, ok, pas mal.
Par rapport à Miami, moi j'avais noté une stat, je trouve assez incroyable. Avant le match de Sacramento qui s'est joué ce week-end, Butler, Olynyk, Adebayo, Robinson, Hero, ils avaient joué 41 minutes ensemble. On a joué 20 matchs quoi. Alors là, depuis hier, ils avaient 4 matchs 41 minutes. Enfin c'est incroyable. Depuis ils sont à 5,57, mais il y a trop de blessures. Ils ont un calendrier pas super simple. Ils ont joué deux fois Philly qui joue très bien. Ils ont joué deux fois les Nets. Ils ont joué les Clippers, les Nuggets. Et c'est,
Milwaukee, deux fois
ouais,
Dallas.
ils ont pas eu un calendrier trop trop simple. Donc je m'inquiète pas. Ils vont remonter. Il y a très très peu d'écart. Hein. Le fait de cette saison, selon moi, une des plus grosses conclusions pour l'instant, c'est que tu fais une série de 5 matchs. T'as l'avantage du terrain. Et je parle à l'ouest comme à l'est. Par rapport à Cleveland, ouais, surprenant. Après, Cleveland, pour moi, c'est un cas d'école de la difficulté de faire des conclusions sur un début de saison parce qu'il y a beaucoup de variances. Cleveland a eu de la chance d'avoir des adversaires déjà assez accessibles pour le début de la saison. Ils ont eu la chance de voir leurs adversaires mal shootés. Alors, il y a un potentiel défensif, hein. Mais je crois pas que c'est la meilleure défense comme ils l'ont été pendant les 3 premières semaines. Et ça se voit très clairement parce que depuis, allez, la mi-janvier, le 10 janvier en gros, c'est la 24e défense NBA. Alors, autant il y a des choses, je pense, à Cleveland super intéressantes. Okoro, je l'avais dit dans notre épisode draft avec Alan et Julien, j'adore ce joueur, ce qui me fait peur parce que je jinxe toujours les joueurs. Mais Okoro, Allen, en fait, je vois ce qu'ils veulent faire. Problème de Cleveland, pour moi, pourquoi ils tiendront jamais. Offensivement, ils mettent trop de pression sur leur backcourt, en fait. Leur backcourt doit enquiller les points. Et pour des jeunes joueurs comme Sexton et Garland, je pense pas que ça soit sain à l'heure actuelle.
Je faisais la blague souvent en disant Colin Sexton aux Cavs, il dort avec le ballon, mais en fait c'est un choix. Je vois que c'est un choix. Non, mais vraiment, au début, moi je me moquais, je me disais vas-y, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le gars, il vient, il débarque, il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés, lâche ta balle. Mais en fait, non, c'est un choix de coach. Et là, je peux pas lui reprocher, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a mieux à faire parfois, et des fois, et ça part s'empaler et c'est pas idéal. Néanmoins, l'équipe tourne bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. On les donnait candidats à la loterie. On avait une question lors de notre fait entrer l'accusé spécial NBA sur
C'est
est-ce qu'ils
vrai.
peuvent éviter un top pick. Voilà, ils sont bien meilleurs que ça. Donc, ça reste plus surprenant que Miami soit dans cette position. Vu les blessures, ça ne m'étonne beaucoup moins que Cleveland.
Ils sont sérieux en fait. On va y
Oui.
revenir là-dessus. C'est un peu un trait commun de certaines équipes qu'on annonçait en bas.
Ouais.
Ils sont sérieux. Ok.
Tout à fait.
Eh bien, on prend du temps, Madiane. Là, je me dis, je vois nos vingtaines de questions. Je me dis, on est à 4, on est dans la sauce. Alors, on va continuer. Alors, salut l'équipe. Selon vous, quelle est l'équipe la plus surprenante? Quelle surprise du début de saison peut être amenée à perdurer sur l'intégralité de la saison? C'est une question de Pierre Grand-Girard. Je suis toujours désolé, j'y arrive pas à lire les pseudos. Madiane, surprise de la saison qui va durer, selon toi?
Devine qui je vais annoncer.
Les Knicks.
Ah non, c'était trop simple. Les Spurs.
Ah, oh, oula.
Les Spurs sont devenus fun à regarder jouer. Les Spurs jouent bien. Enfin, je les annonce. Enfin, moi, je voyais une Anus Horribilis pour les Spurs. Je me dis, vas-y, ils vont rien faire cette saison. Pop, il va partir sur ça. Ça va être immonde. Et puis voilà. Pour moi, c'était fini. Et en fait, par quoi? Parce que je m'étais dit, il va y avoir Aldridge qui va revenir et ils vont repartir comme avant avec leur jeu des années début d'année 2000 et ça va être dégueulasse comme d'hab avec DeRozan qui prend pas un tir à 3 points. Et moi j'étais parti sur ça. Et non, en fait, ce qu'ils ont fait dans la bulle et que j'ai adoré dans la bulle, ils se sont dit, en fait, je pense qu'ils ont vu que c'était leur seule façon de gagner beaucoup plus de matchs parce que dans la bulle ils ont gagné des matchs et ils en ont gagné pas mal. Ils auraient pu faire les playoffs si tous les autres. Portland, notamment, n'avait pas été aussi bon et si leur retard n'avait pas été aussi
Ouais, c'est ça,
conséquent,
ils partaient de trop loin.
ils partaient de trop loin, mais ils ont fait une excellente bulle. Et ben là, ils arrivent et leur 5 de départ, Murray, Keldon Johnson, Walker, DeRozan, Aldridge. Franchement, voir ça, c'est enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont mis au goût du jour et c'est sympa à regarder. Et un Keldon Johnson qui avait quasiment pas joué en fait avant la bulle, et ben il s'avère que c'est un très bon joueur. En tout cas, beaucoup plus que quand il est drafté, on se dit, ok, il drafte ça, mais c'est quoi le projet? On le voit à peine, il passe son temps dans la G-League. Et justement, en fait, ils se sont pas mal servis de leur G-League pour bien développer les jeunes qu'ils ont draftés. Il y avait un article qui était passé, alors je peux plus citer le média parce que j'ai essayé de retrouver l'article, je l'ai pas retrouvé, qui disait justement que les Spurs comptaient beaucoup sur leur G-League pour aller développer les prospects qu'ils draftent. Et ensuite les intégrer petit à petit à l'équipe première et qu'en fait, du coup, pour eux, c'était important. Et qu'en fait, ça explique pourquoi, par exemple, un Keldon Johnson, on l'a pas vu pendant très longtemps et qu'on le voit seulement maintenant s'intégrer. Et vraiment, ce qu'il apporte, c'est excellent. Donc vraiment, moi, je dis, les Spurs, c'est très agréable à voir jouer. Et je pense que c'est une tendance qui va rester parce que je trouve qu'ils n'ont pas non plus que des matchs simples et ils s'en sortent bien.
Ouais, alors j'avais pas les Spurs, moi en fait je faisais un cercle, je finissais le cercle avec Utah parce que pour moi c'est quand même une surprise de les voir avec le
Ah
meilleur
oui.
bilan de la ligue et enfin ils ont adapté un style analytique, je vois pas, il n'y a pas de raison, ça va pas changer. Enfin, peut-être, je sais pas s'ils vont shooter toute la saison à 41, 42%, ça c'est compliqué, mais je pense que leur style et leur style pourrait leur poser des problèmes en playoff, mais pas maintenant. Pour revenir aux Spurs, ouais, je suis assez d'accord. Moi, ce qui me pose du coup ma question, c'est, tu faisais référence aux épisodes d'avant-saison, je me demande du coup si Pop va vraiment partir, parce que pour moi, c'était une certitude que c'était la der des der.
Ouais.
Après, s'ils font les playoffs, peut-être qu'il peut se dire, ah, je pars sur une campagne de playoffs, on verra.
Moi, ça me fait penser à analogie foot, à quand Ferguson part de Man U. Bon, en fait, Ferguson disait qu'il voulait partir de Man U en laissant une équipe propre. Et il me semble que Ferguson part sur un titre et qu'il laisse l'équipe titrée et qu'il part sur ça. Et du coup, enfin, en tout cas, cette intention de laisser un truc propre avant de partir quand t'as été très longtemps au même endroit. Donc, je pense que s'ils font les playoffs cette saison, moi, je vois pas meilleur moment en fait pour partir et dire voilà, vous avez un truc carré, l'an dernier c'était un peu fouillis sur la fin, là c'est carré, c'est propre, vous avez de quoi faire.
Ouais, surtout que tu peux aussi espérer que ça va, enfin le départ peut coïncider avec certaines fins de contrat, enfin ça peut être un renouvellement générationnel, ouais. C'est assez, je souscris totalement à cette théorie, c'est vrai. Et c'est vrai, je souscris surtout à les Spurs deviennent fun à jouer. Et fun à voir jouer. Alors, on sait parfois on nous a dit ah, on est un peu anti Spurs ici, c'est pas ça, c'est que c'était pas toujours l'équipe la plus intéressante à voir jouer et là ils ont, enfin moi ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir des matchs des Spurs. Donc
Contre Denver, j'ai avalé le match et j'ai fait waouh, ouais, c'était trop cool. Vraiment, genre j'étais ah, c'était trop cool.
Puis surtout, je pense qu'il faut revenir au discours qu'on avait il y a peut-être 18 mois. On se demandait mais c'est qui, elle se retrouve où la nouvelle génération des Spurs? Et là, on la voit émerger.
Donc, ça, là, on la voit exactement. C'est ça qui est le 5 de départ. Bah, Murray, Johnson, Walker, c'est que du neuf finalement. Et ouais. DeRozan, Aldridge viennent rendre service. Aldridge va enfin est sous les panneaux et arrête tête de haut panier.
Aldridge est pas très bon quand même. On va être honnête, Aldridge est pas très bon.
En fait, tu maximises pas ce qu'il peut t'apporter, mais en vrai, là où il pourrait t'apporter le plus, ça desservirait tellement le reste que c'est une mauvaise idée.
Puis les historiques du podcast vont tomber de leur chaise. Jacob Poeltl est un joueur qui apporte certaines choses. Voilà. Qui a un impact. Alors, ce qui veut rien dire. J'adore quand à la télé, ils disent, ce joueur-là, il a un impact. Ça veut strictement rien dire, en fait. Parce que ça peut être, l'impact peut être négatif. Alors, on va continuer. Alors, celle-ci, Madiane. Cette question-là.
Ah là 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 là.
Celle-ci, elle est incroyable. Question de Tom ATW. Tom, du French Knicks Podcast. Hein, le Tom, le fan des Knicks, dans la sphère Twitter NBA, le plus exubérant, je dirais.
Le plus hardcore.
Scott Perry est-il le Dolan, référence donc au propriétaire d'Enix, des GM de la NBA, car il pige que dalle au basket, sûrement un espion envoyé par la NASA pour anéantir le futur d'Enix. Je vois nulle explication, sinon l'avis d'Alan sur Emmanuel Quickly. Alors, pour être transparent, Alan était censé être avec nous aujourd'hui. Il a eu un petit mal de tête au dernier moment. On le salue. On espère qu'il va mieux, qu'il a pris 2-3 ibuprofène. Alors, Madiane, ah, ça fait 3 jours que je suis sur cette question. Je grille la priorité.
Vas-y. Je pense que t'as beaucoup plus de choses que moi là-dessus.
En fait, pourquoi j'ai cité ce fan de Marseille au début? Tout est réfléchi, hein. Tout est réfléchi. Pourquoi j'ai parlé de Marseille? Pour moi, c'est la même chose, en fait. T'as que les fans des deux franchises et des deux clubs en question. Ce qu'il mérite. Nouvel épisode, j'ouvre ce nouvel épisode de la NBA appliqué à la science politique par Benjamin Rangui. Donc, on va prendre un truc. Vous voyez en ce moment, vous regardez les infos avec Covid, etc. Bref, tout le temps, on vous parle de modèle. Le modèle de tel pays, le modèle de tel pays, le modèle de tel pays. Et on vous dit toujours, il y a toujours ce commentateur qui, voilà, cet éditorialiste qui vous dit, ah, c'est un modèle à appliquer, sans prendre en compte les caractéristiques du pays, politique, historique, culturel, ce que vous voulez. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand Tom du French Knicks Podcast, je te vois dire à notre Pierre National qu'on salue, ah, j'aimerais tellement que nos GM fassent comme à OKC, je me dis, où est la réflexion en reconstruction? C'est-à-dire que, prenons OKC. OKC, c'est quoi? Pour référence à notre podcast sur les petits et les gros marchés, c'est une équipe qui structurellement fait partie des 4-5 qui a un désavantage total. C'est une équipe qui, historiquement, a très très bien drafté, qui a potentiellement le meilleur GM de la ligue. Donc, quand eux doivent reconstruire, qui passe par la draft, l'accumulation de jeunes joueurs, ça me paraît logique. Prenons les Knicks maintenant, qui n'ont pas re-signé pour un contrat de plusieurs années un joueur qu'ils ont drafté depuis Charlie Ward dans les années 90-2000, qui ne font pratiquement rien en développement de joueurs, et qui ont pour eux, par contre, cette capacité à être attractif, qu'ils l'utilisent très mal. Comment peut-on affirmer qu'il faut utiliser la même stratégie que Scott Perry fait un mauvais job en essayant d'avoir une équipe crédible? Moi, ce qui m'énerve dans cette question, plus largement, même si je l'ai un peu détourné de son sens originel, c'est qu'en fait, les Nets et les Clippers ont montré la voie. Quand tu es une équipe de New York ou Los Angeles, le chemin, tu peux prendre un raccourci. Tu construis une équipe crédible avec des role-players et ensuite, tu assainis les finances, tu montres un cadre stable aux superstars et elles vont être attirées. Enfin, tu as une telle capacité d'attraction qu'en fait, tu vas les attirer. Alors, les Knicks fans, plutôt que... Et là où c'est différent de leur politique d'avant, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, tu trades pas Porzingis 6 mois avant la free agency pour ouvrir un max slot. Tu fais pas ça. Tu gardes Porzingis et tu montres, en fait, que t'es dans une logique saine. Donc en fait, ce que fait Scott Perry, pour moi, c'est totalement logique. Les Knicks, s'ils restent comme ça, s'ils restent crédibles, avec des role-players, s'ils arrivent, il va falloir du temps, parce que les Knicks ont vraiment fait des années cauchemardesques, en 2-3 ans, tu peux avoir une équipe crédible avec des jeunes joueurs et ensuite tu vas attirer la superstar. Donc moi, en fait, je comprends pas comment on peut essayer de calquer un modèle qui ne s'applique pas aux Knicks. Voilà, c'était mon cri du cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Ça s'explique. Le modèle reconstruction par les jeunes joueurs ne s'applique pas à New York. Ça fait 25 ans qu'on l'a remarqué. Ça m'énerve.
Tout à fait. Et du coup, c'est ce que j'allais compléter, c'est que les Knicks sont jusqu'à maintenant en train de faire le moins de conneries de leur histoire récente. J'étais pas fan de l'arrivée de Thibodeau. Force est de constater que les Knicks sont devenus sérieux à jouer. Qu'aller gagner face aux Knicks, c'est pas simple maintenant. Faut montrer un certain sérieux pour gagner. Que on a des joueurs qui s'épanouissent et que moi, par exemple, RJ Barrett qui m'avait pas mal déçu l'an dernier, bah là, il a un cadre, il a plus de responsabilités et on sent que même s'il y a du déchet et on s'en fout, ben il a de la place pour s'exprimer. Randle, je ne comprends même pas le niveau qu'il affiche. Je trouve
c'est que sa transformation en tant que joueur qui ouais. était un espèce de joueur bully ball au début qui rentrait dans la raquette et ce qu'il est devenu, c'est fascinant.
Ah, c'est incroyable. Vraiment, moi je me souviens du Randle des Lakers. Oh, que de chemin parcouru, c'est vraiment bien. Mmh. Et moi je regarde Randle l'an dernier, il a un contrat partiellement garanti qu'à 4 millions. C'est extrêmement intéressant. Et ils n'ont que 54 millions de contrats dans la masse salariale. Donc voilà, ils ont tout à faire. Faut être sérieux cette saison. Pas trop bouger. Hors opportunité. Comme dit, si tu peux toujours te glisser, un peu comme quand Jarrett Allen, tu peux le récupérer, bah tu le prends. C'est exactement ça. Faut être un peu là. Il y a une opportunité, il y a un gros trade. Je m'insère dedans et je récupère des assets intéressants. Ça, faut faire. Ça, évidemment, c'est toujours un truc à faire. Mais il ne faut pas bouger spécialement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer. Et c'est ce qui me fait peur, c'est ce que je disais. C'est que pour l'instant, ça va. Et j'ai toujours l'impression que tu es en train de regarder un joueur de poker qui amasse des jetons. Et tu dis, tu fais pas all-in. Tu gardes tes jetons. Tournoi est long. Garde tes jetons. Et en fait, là, ce que je veux, c'est juste que les Knicks gardent leurs jetons le plus longtemps possible. S'ils arrivent cet été avec des joueurs sérieux, des joueurs développés, des assets et tout, ben là, on peut parler. Là, on parle de quelque chose. Mais vraiment, là, je ne vois pas source d'insatisfaction à ce que font les Knicks depuis un an et quelques.
Honnêtement, moi, c'est un cri du cœur, mais ça fait longtemps qu'on en parle entre nous. Mais j'en ai ras-le-bol des 14 franchises qui veulent jouer le premier pick, le first pick, en fait. Moi, honnêtement, j'en ai vraiment ras-le-bol.
Et la réforme de la draft, de toute façon, fait que pour moi, ça ne sert plus à rien.
Ça sert à rien en plus. Enfin, c'est alors que honnêtement, moi, ce qui me choque en plus, c'est que l'exemple a été montré en fait par l'équipe de la même ville. Les Nets ont montré. Les Nets ont fait quoi? Les Nets étaient dans une situation en termes d'assets rien du tout, le désert. Ils ont fait quoi? Ils ont pris des contrats toxiques. Ils ont gardé une équipe toujours compétitive. Ils ont formé des role players. Et ensuite, tu fais quoi? Soit tu les utilises pour ta bonne équipe, soit de préférence tu les échanges après. Il reste plus personne de ces Nets là hein, dans les Nets actuels. Mais les Nets c'est un favori pour le titre. Chez les Clippers, il reste qui de cette l'épopée avec Doc Rivers là où il y avait que des role players. Il reste pas grand monde. Ce sont des favoris pour le titre également. Je comprends pas en fait. Ça a été prouvé, c'est ce qu'il faut faire. Repartir dans une reconstruction, c'est quoi? Et espérer avoir un top 5 de draft qui va prendre encore 4-5 ans pour avoir joué les playoffs quoi? Une ou deux fois en 15 ans? Je comprends pas
non,
en fait.
C'est pas en fait c'est pas utile et pour moi cet été il y a pas grand chose à faire mais il y a du cap. Et ben si t'as moyen de te glisser dans des trades pour récupérer des contrats toxiques, pourquoi pas? Si t'as moyen en fait par exemple moi j'étais très déçu que les Knicks ne au moment où Chris Paul avait été jugé toxique par les gens. Moi j'aurais pensé que c'était une valeur intéressante en fait quand t'as des joueurs forts mais où leur valeur terrain est inférieur à leur valeur contrat, les récupérer, c'est jamais inintéressant.
Après, je pense un peu comme les Nets et les Clippers, il faut pas non plus tomber en prenant des, en devenant une casse auto, tu vois.
Non, tu non, mais justement, quand je parle de Chris Paul, je parle pas de casse auto. C'est un niveau, ouais. Un niveau terrain très bon, mais une valeur contrat trop forte, mais c'est pas grave parce que t'as du cap et qu'est-ce que tu vas en faire?
Je me demande si t'as pas vraiment intérêt à juste devenir une collection de joueurs moyens. Que en fait certains candidats au titre vont pas s'arracher et que les équipes qui tentent vont juger trop bon en fait.
Bah, les Clippers et les Nets c'est ça. Hein.
C'est ça en fait, parce que c'est pour moi, c'est encore une fois, on vous invite à, si vous l'avez pas fait, écouter ce podcast Petit Gros Marché, parce que ça explique beaucoup de ce que je dis. Pour moi, les franchises de Los Angeles, New York et peut-être Miami sont parmi les seules qui ont un intérêt à être restées moyennes, parce que elles ont la possibilité d'activer tu vois le truc au péage là, tu vois, pour passer là, pour passer plus rapidement.
Ouais, télépéage.
C'est ça. Eux, ils peuvent passer, ils peuvent griller la file parce que sur une free agency, boum, ils attirent un mec. Et ce que doivent faire les Knicks qui n'ont pas fait en pariant sur les dernières free agency, c'est juste montrer d'être compétent en fait. Ce qu'ils font à l'heure actuelle, en étant, j'ai pas beaucoup parlé du terrain, mais comme tu l'as dit, en étant, en proposant, en jouant sérieusement et juste en étant sérieux en fait. Enfin voilà, faut tout simplement, t'as parlé de poker, je vais continuer connaître ton jeu en fait. Enfin, jouer, connaître tes cartes et jouer avec ton jeu. Enfin, pas. Moi, je comprends pas en fait. Surtout que c'est totalement paradoxal parce que les Knicks, les fans des Knicks sont les premiers à te parler. Voilà, que c'est une franchise qui sort de l'ordinaire. Même si je crois que c'est vrai, hein, par certaines choses, ne prends pas la route ordinaire. Alors, prends la route que tu peux avoir et qui n'est pas celle des autres. Enfin voilà, c'était mon petit. Voilà, j'ai tout évacué. On peut continuer sur les autres questions. Alors, on a trois questions à la suite. De Julien. Alors, on en avait déjà fait d'autres. Alors, les bonnes affaires des agents libres. Alors, tu m'as dit que tu avais deux réponses à cette question-là, toi, Madiane.
Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est que, bon, une des très bonnes signatures, au vu de la production versus la valeur de récupération, moi, je trouve que la signature de 3 ans de Christian Wood aux Rockets, c'est un très bon contrat. C'est un très bon contrat au vu de ce qu'il produit. Voilà. Moi, ça me paraissait à valeur évidente. J'ai regardé un peu les contrats qui ont été signés. J'ai enfin trouvé une liste complète de tous les contrats signés cet été. J'étais très heureux. J'ai épluché, j'ai regardé. Et bon, bah, performance-prix, Christian Wood, à date, c'est excellentissime, clairement. S'il y a encore 2 ans et demi là, sous ce contrat à faire, il y a du potentiel, le propriétaire sera content, il paiera pas cher et il aura un bon niveau plancher.
c'est son rêve, Christian Wood, c'est trop le genre
exactement,
de mec.
Exactement, mais il doit être tellement heureux. Et autre chose, moi je repars encore de nouveau sur Utah. Avoir réussi à re-signer Favors, le récupérer alors que tu l'avais tradé à la base et que du coup tu le re-récupères en agent libre pour récupérer finalement quelque chose qui était très important pour ton équipe et pour sa stabilité, avoir des minutes sans Gobert solide défensivement dans ta peinture, eh ben, j'ai cherché. Franchement, ils font une très bonne affaire, Utah. Ils s'en sortent très très bien sur ce truc-là. Et vraiment, là-dessus, bah bravo, bravo, belle signature. Donc pour moi, il y a une espèce de valeur intrinsèque, performance où il fait des stats, Christian Wood. Et pour moi, Favors ou fit un mec qui fit exactement. En fait, tu récupères le joueur que t'as laissé partir, certes, mais donc c'est facile de dire le fit, mais c'est vrai que le fit est incroyable pour l'équipe du Utah, donc c'est trop bien cette signature pour eux.
Ouais, et d'ailleurs, à noter, Favors, l'agence, la garde loyauté, hein, le service secret de la loyauté, je les vois pas parler de Favors, alors qu'en fait, je trouve que c'est, si vous voulez, il y a très peu de preuves de loyauté, peut-être en sport, mais alors là, j'en vois pas de plus belle, parce que je pense qu'il a pris en dessous de ce qu'il pouvait espérer sur le marché pour revenir dans l'équipe qu'il avait changé, quand même. Donc, faut quand même prendre conscience de ça. Bonnes affaires des agents libres. Alors, moi, vous savez, j'aime jamais répondre aux questions simplement. Je vais dire Jeremy Grant, parce qu'en fait, quand ils vont le trader dans 1 an et demi pour genre une équipe qui veut proche du titre, qui va leur envoyer 15 000 assets, ils vont se dire que c'est l'affaire du siècle. Jeremy Grant, il a pris de la valeur. Les équipes vont y voir un ailier qui peut mettre 20 pions, 20-25 par match, indépendamment du niveau de jeu des Pistons d'Ilias qu'on salue. Et je pense que pour moi, c'est une des bonnes signatures parce que tu vas très vite la rentabiliser dans 1 an et demi. Genre, quand,
on avait du mal à voir le projet derrière la signature. Et si c'était pas ça le projet?
De non, le rentabiliser. Mais... parce que là, un 3, c'est déjà là, ils le font jamais, hein. Mais là, ils le mettent sur le marché. Bon, c'est l'année Covid, c'est un peu particulier. Dans 1 an déjà, ils le rendent disponible. Leur téléphone sonne toutes les 3 secondes, hein. Franchement, enfin, à surveiller. À l'inverse, quelle franchise a signé la pire intersaison? Alors moi, je t'avoue, j'ai du mal avec cette question. On est que le 31 janvier. C'est tôt. C'est vraiment tôt.
Il y a une réponse facile. Ou ça pourra ouvrir vers d'autres questions, mais au vu de ce qu'ils ont balancé dans un trade qui s'avère cataclysmique pour eux a posteriori. Les Wizards, ils la regrettent un peu cette intersaison peut-être.
Après, peut-être que moi, dans cette question, je comprends, il y a de l'intentionnalité en fait. Là, ils avaient le flingue sur la tempe, pour être honnête, les Wizards, quand ils se prennent la demande de trade de Wall.
Ouais, mais en fait, je pense sincèrement qu'ils pensent être meilleurs que moins bons avec ce trade. Et en fait, c'est pour ça, c'est que moi, si tu me bazardes des joueurs meilleurs qu'un autre dans un trade, mais que tu me montres que ton intention c'est de reconstruire, je peux comprendre et je fais ouais, bah ok, pas de souci, c'était pas ton objectif, c'est pas ce que tu voulais, etc. Il y a autour du trade d'Arden, il y a des équipes où ça a l'air particulier, mais non, leur politique sportive va dans cette certaine direction. Ok, ben fais ce que tu veux, Indiana Pacers. Mais il faut bien la citer, l'équipe. Mais là, Washington pensait vraiment, je pense, être meilleur, et tout le monde analysait ça comme ça, en disant on n'a pas vu John Wall depuis longtemps, les Wizards seront meilleurs comme ça, et c'est pas le cas, et ce trade fait mal quand même quand tu le regardes.
Ouais, après John Wall, c'est inespéré. C'est totalement inespéré, en fait.
Oui.
Enfin, pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours deux types d'analyse. En fait, il y a celle où, oui, peut-être t'as été négatif. Je fais pas ça pour me défendre, hein, mais John Wall, c'est un doute légitime. Un mec qui a pas joué depuis 2 ans, qui base son jeu sur les qualités athlétiques, le voir revenir, c'était légitime d'en douter. Mais c'est vrai que, vrai, a posteriori, peut-être Houston, après, j'avoue, moi, j'ai du mal parce que, par exemple, on a un peu cassé du sucre sur Charlotte. Charlotte, c'est bien maintenant. Mais si Hayward baisse de niveau très rapidement et que son contrat devient effectivement celui qu'on avait imaginé, ils vont direct entrer dans la course, en fait. C'est pour ça que je me méfie de ce qu'on peut juger après quoi. 6 semaines, bientôt. On peut continuer. Alors celle-ci, toujours de Julien, celle-ci, elle est très longue. Dallas, quel projet autour de Doncic? Moi, je vais résumer ça. Alors très longue, mais je vais la résumer. Je vais faire preuve de concision. Peut-être. Tentative de langue française. Il leur faut un deuxième porteur de balle. Porzingis doit arrêter de jouer comme un arrière. Il leur faut de la viande à l'intérieur. Pour moi, c'est le diagnostic du médecin Benjamin, c'est ça.
Je pense que, oula, pendant que Jamorant fait son
pendant que le chat de Madiane, faudrait sur YouTube pour voir ça, décide de l'attaquer en direct.
Exactement. Jamorant veut aller au panier. En tout cas, par rapport à Dallas, en fait, je pense qu'ils ont raté leur fenêtre qui était d'attirer, à mon avis, Giannis. C'était ce qu'ils visaient. Et en fait, c'était une fenêtre où tu profitais du contrat ultra, ultra méga rentable de Luka Doncic qui sera payé 10 millions la saison prochaine. Et c'est scandaleux. Donc, je pense qu'il misait sur ça. Moi, je suis pas fan d'avoir fait de Porzingis le gars à côté, surtout parce que c'était très intentionnel et il y avait rien qui te pressait spécialement à prendre Porzingis. C'est un joueur extrêmement injury prone sur lequel perso je ne compte pas.
C'est dur ça.
Est-ce que vraiment tu te dis que tu vas à la guerre avec Porzingis? En fait, c'est tu ne sais pas s'il pourra prendre les armes avec toi lors de certains matchs. Et je pense sincèrement que contre les Clippers, au vu des gros soucis que nous ont montré ces Clippers, avec qu'un Porzingis là en permanence, l'histoire aurait peut-être pu être différente. Alors, il y a son expulsion lors du match 1 de mémoire, mais il y a 2-2 et Porzingis n'est pas là à 2-2. Et ça aurait pu changer des choses. Et le problème, c'est que quand tu as un joueur qui se blesse aussi souvent, ne pas savoir s'il sera là pour ce genre de match décisif, pour moi, ça l'exclut de la discussion d'un joueur autour duquel j'ai envie de construire, surtout que j'ai un prospect générationnel actuellement dans mon effectif. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils ont raté, du coup, la fenêtre 2021-2022. Maintenant, ils ont le contrat de Tim Hardaway qui se termine, le contrat de James Johnson qui se termine.
Qui n'est pas bon, James Johnson. Je glisse ça comme ça.
Oui, mais je pense que, en fait, la valeur de James Johnson, c'était d'avoir un contrat qui expirait cet été. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu trades pour récupérer quelqu'un d'autre, ces contrats expirants qui peuvent avoir une certaine valeur pour récupérer quelqu'un? C'est-à-dire, tu récupères un contrat, tu donnes 2 contrats expirants, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire cette saison. Sinon, va falloir revoir tes priorités parce que tu ne pourras plus, à partir du moment où Doncic va commencer à compter dans tes cap holds et que tu vas le signer de toute façon au premier jour, au max du max du max, dès que c'est possible, bah, de toute façon, il va le signer à mon avis. À partir de là, ce sera terminé de pouvoir avoir deux stars à côté de lui et du coup, il faut revoir un peu tes schémas. Je pense que Porzingis était dans un schéma deux stars plus Doncic. Et là, le schéma, c'est Doncic et une autre star, et ça va être difficile d'avoir deux autres stars à ses côtés une fois que tu l'auras payé. Et à partir de là, il faut qu'il réfléchisse. Et au vu des free agency, etc., à venir, je vois plus cela venir peut-être via un trade. Je vois plus d'opportunités de trade, notamment cette année avec les contrats terminants, qu'en attendant les prochaines free agency.
Je ne sais pas s'ils avaient vraiment réfléchi à Luca, Porzingis et quelqu'un d'autre. Je pense surtout que moi, en fait, j'avoue que Porzingis entre petit à petit dans le classement des joueurs les plus frustrants, je trouve, à avoir joué. C'est-à-dire qu'il joue, vraiment comme un arrière, en fait. Et pour moi, c'est ça le problème. Je pense qu'ils ont le Porzingis pour lequel ils ont investi. On précise d'ailleurs, pour une petite parenthèse pour revenir sur le cas des Knicks, les Knicks ont le premier choix, le premier tour des Mavericks cette année. Hein. Donc les Mavericks n'ont pas du tout intérêt à être mauvais cette année. Je pense qu'en fait, ils attendaient peut-être quelque chose d'autre parce que c'est un peu en train de devenir un joueur théorique, l'ami Kristaps Porzingis. Il passe son temps à l'extérieur. Ça, on le savait, c'était censé être une de ses forces. Mais pour un mec de 2,21, il est incapable de sanctionner son avantage de taille, en fait. Il poste jamais. Alors je ne demande pas de jouer comme un pivot des années 90. Hein. Je lui demande juste de sanctionner par la taille. Il ne le fait pas. Dans la protection de cercle, protection du rebond, il est pas là. Enfin, moi, je le trouve extrêmement frustrant à voir jouer. Et là, en l'occurrence, non, c'est pas le joueur pour lequel ils ont drafté. C'est pour ça, en fait, pour moi, ils avaient déjà fait cette démarche-là de par un trade aller chercher quelqu'un. C'était Porzingis qui, sur le pari, tu te dis, c'est potentiellement un top 20 NBA que j'étais allé chercher pour pas grand-chose. Je le re-signe. Certes, il revenait de blessure, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de frustration. Moi, je pense vraiment qu'ils ont besoin de viande à l'intérieur, que Porzingis doit un peu adapter son jeu, et ils ont. On voulait vous faire un podcast là-dessus, on le fera peut-être un jour. Tout mettre sur l'héliocentrisme, tout mettre sur un porteur de balle. Luka Doncic est un joueur extraordinaire, lumineux, immense. C'est pas du tout viable. C'est-à-dire qu'à la seconde où il sort, il n'y a personne pour créer du côté des Mavericks. Ça ne marche pas.
Et surtout, le problème de l'héliocentrisme se reflète en fait souvent chez les coéquipiers. On peut voir très souvent que quand il y a peu de partage de balles dans ces équipes-là, la série, par exemple, de Houston de tir à 3 points manqués est liée au fait que Harden est ultra héliocentré dans cette équipe à ce moment-là de la série. Et qu'à partir du moment où t'es pas en rythme et qu'on te donne une balle pour tirer, bah, t'es pas en rythme et que t'as pas vu la balle du match, c'est très compliqué. Mmh. C'est pour ça, par exemple, qu'un Kevin Durant, moi je l'admire énormément, c'est que Kevin Durant, il est capable de shooter sur la tête d'environ tout le monde en ISO. Et pourtant, il va avoir la réflexion de se dire « je ne fais pas ça ». Parce qu'il faut que tout le monde touche la balle à un moment dans cette équipe.
Totalement. Donc, faudra voir ça avec les Mavs. Mais oui, enfin, pour moi, ils sont peut-être allés trop loin dans ça. Honnêtement, c'est un casse-tête. Rien n'est facile de maximiser un jeune joueur aussi talentueux, une anomalie historique. C'est extrêmement compliqué à faire. Ils ont tenté quelque chose à voir. Après, ils ont aussi des problèmes de blessures, de Covid. Enfin, c'est une saison compliquée pour Dallas, mais faudra peut-être adapter le projet. C'est une certitude. Et enfin, c'est la dernière question, je crois, de Julien, le joueur le plus sous-coté en 2021. Alors, je vais te donner des petites antisèches, Madiane, parce que j'ai trouvé un article de Dan Favale, un journaliste, qui parfois écrit sur Bleacher Report, il a des podcasts, etc. Il a fait une liste qui date d'il y a 2-3 semaines. J'ai trouvé des noms assez intéressants. Mmh. Il avait mis en joueur, alors lui, il n'avait pas parlé de underrated, but underappreciate, sous-apprécié. Enfin, je sais pas comment, pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Voilà. Alors, il avait mis du Rishan Holmes des Kings en premier, Colin Sexton en 2, Cameron Johnson en 3, Terry Rozier en 4, Marcus Smart en 5. Je suis absolument pas d'accord avec Marcus Smart. Pour moi, c'est limite l'inverse. Ensuite, on a du Larry Nance, Miles Turner, Kyle Anderson, Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Je t'avoue que j'aime plutôt bien Terry Rozier. Parce que pour une raison qui m'échappe, je regarde beaucoup trop les Hornets, comme un peu toute l'équipe des H, on regarde beaucoup trop les Hornets. Je trouve que Terry Rozier s'est un peu trop arrêté sur l'analyse. Ah, il a un contrat trop onéreux, oui. Et c'est un mec ultra solide, en fait, qui en plus, je trouve, est spectaculaire. Parce que souvent, les mecs sous-cotés ils sont pas spectaculaires, en fait. Et je trouve Terry Rozier aussi spectaculaire. Parfois un peu, Oui, après cette équipe, honnêtement cette équipe de Hornets, c'est ça que c'est pour ça que c'est une expérience, c'est que d'un soir à un autre, tu sais pas ce qui va se passer en fait. C'est vraiment le grand 8, mais j'aime plutôt bien ce côté Terry Rozier et Miles Turner parce qu'en fait, défensivement, c'est un monstre, mais vu qu'il était surcoté avant, on est en train de sous-coter sa saison, je trouve.
Ouais, non, j'aime bien cette liste et je suis un peu déçu de ne retrouver aucun de mes deux joueurs dans cette liste. Je suis allé un peu taper en fait des joueurs très très forts en ce début de saison, mais un peu pas dans nos radars. Et moi, il y en a un. Alors, c'est vrai que il y a un autre gars à côté de lui sur le backcourt qui est très fort, mais McCollum, ce qu'il envoie en ce début de saison.
C'est grave. Sous-côté.
Non, mais en fait, si je te dis, ouais, McCollum est très fort cette saison, ou si je te demande, par exemple, de me dire de tête quelle stat il est en train d'envoyer, je suis pas sûr que beaucoup de gens se rendent compte du délire parce qu'en fait, il est quasiment à 60% de true shooting. Et 60% de true shooting, c'est extrêmement sérieux. Et on se rend pas compte à quel point ce mec est fort offensivement par moment. Et il peut sortir des dingueries, mais là, en fait, en ce début de saison, je le trouve très très fort. Je regarde pas souvent Portland, mais il est pas tout seul sur le backcourt et ce qu'il arrive à sortir, c'est assez dingue. Et moi, il y en a un autre, Alan. C'est dommage que tu ne sois pas là, mais le début de saison de Jaylen Brown. Fort. Oui, on en parle beaucoup, certes, mais
on en parle énormément.
Mais
je
il
trouve,
est tellement. En fait, je l'avais observé l'an dernier pour l'épisode d'une émission qui est depuis décédée, j'avais trouvé ses progrès extrêmement intéressants. Et là, je le regarde et j'ai dit merde, putain, il a encore progressé le con. Et j'ai l'impression que si ça se trouve, on va se retrouver assez vite dans une config 1A, 1B au Celtics, alors qu'avant, je t'aurais dit non, c'est Tatum, c'est l'équipe de Tatum, etc. Alors, on n'y est peut-être pas encore, mais ouais, c'est les paliers qu'il franchit au fur et à mesure, je fais mais sérieusement, je m'y attends pas.
Je pense que c'est peut-être notre définition. En fait, moi, pour moi, sous-côté, c'est j'exclus tout mec qui est déjà à niveau All-Star, en fait, ou proche de All-Star, parce que pour moi, c'est le syndrome Mike Conley, tu peux pas être sous-côté quand t'es si fort que ça, et j'exclus tout mec qui est en fin de rotation. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas assez de données. Pour moi, en fait, un sous-côté, il faut que tu sois un remplaçant qui joue beaucoup, un titulaire pas très en vue. Et c'est pour ça que j'aime bien le Terry Rozier. Parce qu'en fait, je comprends que McCollum et Brown, peut-être, on en parle moins. Même si, encore une fois, on vous renvoie à tout ce qu'on a dit auparavant, que sous-côté, c'est souvent, tu parles de quel parti pris, enfin, bref. Mais Jaylen Brown, on a beaucoup parlé, McCollum aussi.
Oui, mais en fait, je pense qu'en fait, on se rend pas compte d'à quel point c'est incroyable. En fait, on te dit Jaylen Brown et McCollum font des bons matchs, tu fais, ah, ok, bah, normal. Et en fait, non, c'est pas normal d'être aussi bon quand même. Il y a quand même, il faut admirer des fois les performances qu'ils font.
Je suis plus souvent sur Twitter, vraiment pas, je me purifie, mais je devrais compter. Je pense que Jaylen Brown, c'est probablement un des joueurs dont j'ai plus vu. j'ai vu le plus de tweets cette année. Enfin, franchement, on parle beaucoup de lui. Enfin, bref. On va conclure aujourd'hui en parlant des meilleurs amis des Celtics de Jaylen Brown. C'est les Sixers. Avec une question de Ilmatic. Pour vous, les 76ers sont-ils contenders en l'état? Quel trade feriez-vous pour avoir ce créateur dynamique sur demi-terrain? Alors, moi, ce qui s'est transformé dans ma réflexion autour de cette question s'est transformé dans mon esprit en fait, c'est quoi un contender? Alors, il y a eu un débat.
J'ai vu.
Il y a eu un mini débat sur la conversation du site. Pour moi, on va abréger le débat, mais pour moi, c'est une équipe qui peut aller en finale, en fait. Enfin, c'est ça, un contender. Tout et à autant fait. À l'ouest, je trouve ça très, très clair. En fait, il y en a deux. Enfin, pour tout le respect qu'on a avec Utah, il y en a deux. À l'est, je galère encore à identifier qui est contender, en fait.
J'en vois 3,5 à l'est, mais
laisse-moi deviner. Tu mets Nets, Sixers, tu mets Bucks et une moitié de Celtics.
Ouais.
Tu vois, rien que les Celtics, pour moi, ils sont.
C'est une moitié. C'est pour ça que c'est une moitié. C'est-à-dire, ils sont pas encore sortis de la liste, mais ils commencent petit à petit dans ma tête à sortir de la liste. Notamment.
Genre les Bucks, pour toi, concrètement, ils peuvent vraiment aller en finale.
Et les Bucks, je pense que ça se complique et je pense qu'ils vont se mordre les doigts de certaines fenêtres qu'ils auraient Enfin, je sais plus, c'est Celtics à la limite qui ont laissé passer des fenêtres d'aller vraiment en finale, mais
c'est pas des fenêtres, c'est des vérandas qu'ils ont laissé passer.
Ouais. Non, mais oui. L'an dernier, la bulle, ils vont la regretter. Hein. Enfin, ils sont pas moins bons que Miami, ils vont la regretter cette bulle. Mais j'ai l'impression que cette année, les Sixers sont vraiment dedans et Embiid est à un niveau MVP vraiment sur ce début de saison. Et je trouve que quand je dis Embiid me frustrait beaucoup, et là j'ai l'impression de voir le gars un peu sérieux. Enfin, il a arrêté de déconner et de faire le mariole et il a dit ok, c'est bon, c'est parti, l'équipe est sérieuse. Doc Rivers, c'est un coach référencé. Je trouve qu'ils ont stabilisé leur effectif. Et justement, pourquoi faire un trade? Quel est l'intérêt en fait? En fait,
on le dit tout le temps, ils ont bougé
en 2020, en 2019, c'est bon là, calmos. Là justement, on voit ce que ça donne. Ils sont premiers à l'Est, ça tourne bien. Je trouve qu'ils ont résolu de manière assez satisfaisante et assez inespérée leur problème au tir, où ça manquait vraiment de tir extérieur l'an dernier. Eh ben, je trouve que ce défaut commence à se gommer de manière plutôt satisfaisante. Au vu du peu de marge qu'ils avaient, passé de cet état qui était délétère l'an dernier à ce nouvel état qui est très satisfaisant, je trouve ça très bien. Eh ben, on bouge pas, on attend de voir ce qui se passe. Et en fait, les fans des Sixers sont impatients. Mmh. Et moi, je pense que le premier all-in, déjà à l'époque, ne se justifiait pas et il était trop tôt. Ils ont grillé trop d'assets. Trop d'assets. Ils avaient
c'est
vraiment
quand même un borderline top 10 NBA, enfin un top 10 NBA selon les années qui est disponible.
Non, je parle pas de Butler.
Ah, Harris.
Ouais, je parle de Harris et de Harris, ils l'ont payé cher pour ce que c'est. Et Horford, pareil, quelle signature pourrie. Alors Butler leur passe dans les, Butler leur file entre les doigts et c'est très dommage. Mais Butler, je comprends, et ils sont un shoot de Kawhi d'y aller cette année-là. Et ils sont pas moins bons que les Raptors, je le redis encore une fois et je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Ils ne sont pas moins bons que les Raptors et je pense que si le shoot de Kawhi passe pas et que c'est eux qui gagnent ou si ils font pas la connerie qu'ils font au Game 4, c'est eux qui ont la bague. Je le pense sincèrement. Donc il y a quand même des choses.
Qui en fait tu t'es pas aussi demandé en lisant la question pour qui? Enfin. Oh.
Je pense que tout le monde pense à Bill. En fait, je pense que j'ai lu. En fait, à chaque fois que je lis une question à ce sujet, je vois que le fantasme de Bradley Bill est parce que maintenant que tous les autres se sont fait trader, qu'il n'y a plus Harden et je me demande à quel point ils étaient dans la course pour Harden ou pas. Finalement, il n'y a que Bill en fait. Et est-ce que ça vaut le coup? Non, Lavine, c'est.
Ah, je ne défends pas. Je m'inspire de ce que je peux lire.
Mais franchement, c'est pas intéressant. En fait, je pense que la stabilité vaut plus que le potentiel et la potentielle élévation de plafond que t'auras en tradant pour un de ces joueurs. Donc pour moi, il faut rester pareil et ça sert à rien de se presser. Et à la limite, si tu as des liftings à porter sur ton effectif, tu as toute la fin de la saison pour te les reposer. Mais pas
surtout
maintenant.
Surtout que si tu réfléchis en termes tout simplement limite de banquier, la valeur de Ben Simmons, elle a jamais été aussi basse,
oui.
Et celle de Bill a jamais été aussi presque haute. C'est le pire moment pour l'attirer en fait, parce qu'on sait clairement qu'ils veulent se débarrasser de Ben Simmons. Enfin, du côté des Sixers fans, ça a l'air très clair. Si c'est Bill, pour moi, le coût va être trop important, astronomique. Lavine, free agent en 2022, et je pense pas, tu vois. Basket fiction, t'échanges, tu rajoutes Lavine, et disons même que t'arrives, ce qui pour moi est totalement impossible, t'arrives à conserver quand même Ben Simmons. Dans je suis pas sûr que tu t'élèves.
Oui, mais t'as balancé Harris alors.
Ouais, et je suis pas sûr que tu t'élèves au-dessus des Nets en fait.
Et je suis pas sûr, Harris, je trouve que il a des limites. C'est un joueur qui devient crédible, disons en 2,5-3e option, ok. Mais je trouve que sa saison est bonne. Hein. Enfin, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pourquoi le bazarder pour un truc assez hypothétique?
Mais on en revient à la même chose. Ils sont pas très patients en fait. Enfin, c'est ça. Et c'est aussi, je pense, et on va boucler la boucle et on va conclure cette première partie comme ça, parce qu'on a déjà été censé faire des 40 minutes, on fait des grands 1 heure. C'est aussi, selon moi aussi, ça prouve que quand tu pars dans un long processus de reconstruction, une fois que t'as mis ce coup d'accélérateur, la fanbase devient, je vais pas dire hystérique, ça va mal être pris, mais la fanbase devient extrêmement impatiente. Elle ne va plus attendre. Elle a été frustrée pendant des années. Et la frustration des fans des Sixers était la plus profonde, je pense, parce que même s'il y a eu tout un délire autour de ces années Sam Hinkie, maintenant, en fait, ils veulent constamment y aller, alors que ils ont une place ils peuvent aller en finale de conf, je pense. Enfin, c'est loin d'être des conf.
En fait, la façon dont ça a été vendu aux fans, et même avec Trust the Process, Embiid qui s'est surnommé The Process, ce genre de choses, en fait, a peut-être un peu desservi. En plus, le départ de Sam Hinkie bouté dehors un peu de manière bizarre, on va dire. Disons que
l'interventionnisme, la main transparente.
Disons que la main invisible d'Adam Smith s'appelait celle d'Adam Silver, mais
c'est invisible.
La main invisible de Smith c'était plutôt celle de Silver, et du coup il y a eu une façon de vendre le projet qui du coup disait ah bah c'est bon, maintenant on a le process qui est fini, allez c'est parti, on balance tous les assets et on fait all-in. Mais ils ont fait all-in 3 saisons de suite. Là, je pense qu'il faut se calmer.
Ouais. On va calmez-vous. Ça va être notre grande conclusion. Calmez-vous. Puis honnêtement, je crime de lèse-majesté. Bradley Beal te fait pas passer les Nets en fait. Enfin, en gros, si on a une vision encore plus stricte du contender comme équipe qui peut aller gagner le titre cette année, il y en a 3. Je vois pas ce que peuvent faire en l'état de crédible. Hein. C'est-à-dire, je parle pas d'attirer. Je parle pas de ramener Giannis, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de crédible qui peut les mettre dans ce groupe-là. Donc voilà, un peu de patience. Bien du coup, Madiane, c'est comme ça qu'on va conclure cette première partie. Si vous avez posé une question qui n'a pas encore été décortiquée, vous inquiétez pas, ça reviendra en deuxième partie. D'ici là, une deuxième partie qui sera publiée dans la semaine. Hein. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube et aller sur YouTube surtout si vous voulez voir le chat qui s'appelle Jamoran, vous l'aurez remarqué.
C'est son surnom.
C'est son surnom. Nous, on se retrouve, je l'ai dit, dans quelques jours pour cette deuxième partie de la FAQ. Après un quart de la saison, on vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.